avec intention. Il y a des mots qui résonnent quand même. Hein. Début de journée sous le soleil, temps sec tout au long de la journée, 26 degrés pour les maxima. Ah, vous devez toujours longuement patienter sur le 411 Namur-Bruxelles à cause de cet accident dans la zone de chantier un peu avant l'aire des Champs-Refailles. Plus une heure sur 12 km entre Champion et l'aire des Champs-Refailles vers Bruxelles. Et puis un second accident signalé sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Dossou en bande de gauche vers Bruxelles. Ça ne va évidemment pas améliorer la situation. Là, c'est une voiture qui est sur le flanc. Alors je vous signale qu'un véhicule en panne à Bercel a été dégagé, mais il y a toujours 25 minutes entre Wautier-Bren et Usingen vers Grand Bigard. Et puis une demi-heure sur le 42 venant de Gand, 30 minutes sur le ring extérieur entre Lillois et Groenendaal et 20 minutes sur le 40 venant de Liège depuis Berthem.
Infotrafic. Roulez en toute sécurité avec Bell RTL.
Envie de faire plaisir? Trouvez le cadeau idéal dans votre parfumerie April. Parfum, maquillage et bien plus encore. Rendez-vous en magasin ou sur april-beauty.be.
Bell RTL. Vibrez ensemble.
Dans 10 minutes, la femme qui va récupérer des animaux maltraités dans des conditions incroyables, mais dans l'immédiat 9h. Et le RTL Info 9h, c'est Thomas de Bergueil, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous et bienvenue. Un hôpital en partie paralysé par un incendie à Montgodine. Le feu a mobilisé les pompiers durant la nuit. Conséquence, les consultations sont réorganisées. Nous sommes sur place pour les toutes dernières précisions. La réplique de l'Iran sur Israël à coup de missile. Quatrième jour de frappe et un dernier bilan, il y a 5 morts en Israël. La crainte, désormais, c'est l'embrasement. Et puis nous parlerons, chez nous, des cerises. Elles sont arrivées. Elles sont plus chères, mais très savoureuses. L'hôpital de Namur, Montgodine, victime d'un incendie durant la nuit, dans un local proche des guichets d'accueil des patients, avec d'importants dégagements de fumée. Les gros moyens ont été déployés par les pompiers. Voyons ce qu'il en est ce matin. Bonjour Vanny Esposito. La conséquence sur place, vous y êtes, hein, c'est qu'un accès est fermé et qu'il faut réorganiser toutes les consultations.
Oui, une des deux entrées du bâtiment est fermée pour l'instant. C'est l'entrée A. Il faut donc passer par l'entrée B. Il faut marcher un tout petit peu. Et justement, en ce moment, ils sont en train de sortir le matériel de l'accueil, là où le feu a pris. Donc, ils sont en train de sortir les chaises roulantes, etc., pour les passer à l'entrée B. Et effectivement, alors, il y a eu des consultations qui ont dû être réorganisées ce matin. Certains rendez-vous sont déplacés dans d'autres locaux de l'hôpital. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner à l'accueil, on va dire, provisoire pour demander si votre endroit de consultation est toujours le même. Et surtout, ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas tous les services. Dans les principaux services concernés, il y a la pédiatrie, la dermatologie et quelques services de chirurgie. Mais les patients concernés ont tous reçu un SMS. Et donc, je vous le disais, il n'y a pas eu trop de dégâts. Le feu a pris, je vous le disais, au niveau de l'accueil et les pompiers sont vraiment tout près, ce qui a permis de maîtriser le feu très rapidement, mais par contre une canalisation a cédé lors de l'intervention des pompiers, ce qui fait qu'il y a eu de l'eau dans certains services et que donc ben, c'est pour ça que c'est inaccessible pour l'instant. Un nouveau point sera fait à la mi-journée pour envisager une reprise des activités normalement cet après-midi en fonction du nettoyage et de l'état des équipements.
Merci beaucoup Vanny Esposito depuis Namur, une information réactualisée régulièrement bien sûr sur le site et l'application RTL Info, c'est le bon réflexe info. Un rassemblement symbolique des syndicats du commerce ce matin devant le service public fédéral emploi. Ils réclament une table ronde sur l'avenir du secteur face à des conditions, disent-ils, de travail qui régressent. Myriam Delmé est la présidente du syndicat CEDCA.
Si on veut demain qu'il y ait encore des réelles possibilités de s'épanouir dans un job et d'en vivre au niveau du commerce, il faut que le gouvernement revoie sa copie par rapport aux mesures qui sont mises sur table. Ça, c'est ce que nous demandons au gouvernement. Nous croyons en la création d'emplois. Tout le monde a le droit d'avoir un emploi, mais un emploi dont il puisse vivre. Et c'est parce que le gouvernement est occupé à mettre sur table.
9h04, l'escalade militaire entre l'Iran et Israël a franchi un nouveau cap. Téhéran a tiré ce matin une salve de missiles sur plusieurs villes israéliennes, faisant au moins 5 morts et une centaine de blessés. C'est le tout dernier bilan. Une riposte aux premières frappes israéliennes menées pour la 4e nuit consécutive sur le territoire d'Iran. Sophie Jousselin, ce n'est qu'un début, affirment les Iraniens qui annoncent de nouvelles frappes dévastatrices à venir.
Absolument, c'est ce que laissent entendre les dernières déclarations des gardiens de la révolution, l'armée idéale. idéologique de la République islamique a promis de frapper davantage de cibles vitales, tout en se félicitant du succès et de l'efficacité des frappes de cette nuit. Téhéran a des stocks considérables de missiles, plusieurs milliers, qui lui permettraient de continuer à défier Israël. Et face à la violence des attaques subies sur des sites nucléaires, des dépôts de carburant, des sites de lancement de missiles, Téhéran rend coup pour coup malgré la mort de plus de 200 personnes depuis vendredi et plus d'un millier de blessés. Signe d'un pays qui se prépare à un conflit dans la durée, dans la capitale, les mosquées, les écoles et les stations de métro servent désormais d'abri anti-aérien pour la population, mais les habitants commencent à fuir Téhéran où la vie quotidienne devient de plus en plus difficile. Hier, beaucoup de magasins étaient fermés et des embouteillages se sont formés à la sortie de la ville, de longues files de voitures qui quittaient la ville pour fuir les bombes israéliennes. Et il y a quelques minutes, le ministre de la Défense israélien vient de déclarer que les habitants de Téhéran paieraient le prix des frappes iraniennes sur des civils israéliens.
Sophie Jousselin pour RTL. À l'étranger, toujours le typhon Wutip a fait au moins 7 morts au Vietnam. C'est le dernier bilan. Les intempéries ont provoqué des inondations majeures dans le centre du pays. 60 000 hectares de terres agricoles ont été inondées. C'est le premier typhon de la saison qui pourrait s'intensifier encore avec le réchauffement climatique. Le suspect de l'assassinat d'une élue démocrate du Minnesota aux États-Unis a été arrêté. Vance Boulter, 57 ans, avait aussi tué le mari de l'élu. Il était recherché depuis 48 heures par toutes les polices. Il a été capturé vivant dans une zone rurale. Le gouverneur de l'État a prévu une conférence de presse en milieu de matinée. Allez, retour chez nous pour finir ce journal avec les cerises. Elles apparaissent sur les cerisiers. Elles sont juteuses et sucrées. Belle saison. En revanche, les cerises à l'étal du marchand seront plus chères à cause notamment de changements climatiques. En Turquie, la Turquie, c'est le premier producteur mondial de cerises. Nicolas Goffin est producteur chez nous et lui, il se frotte les mains avec Christophe Clément.
Il fait vraiment beau. On a le soleil qui est parmi nous et ça permet justement d'offrir à la cerise sa pleine maturité. On a aussi des épisodes pluvieux qui ne sont pas trop intenses. Et finalement, quand il pleut trop, la cerise a tendance à éclater. Et donc ici, on voit qu'on est couvert. Mais je veux dire, en attendant une pluviométrie correcte pour alimenter l'arbre, tout en n'étant pas excessive, est l'élément idéal pour des cerises de qualité cette année-ci.
Enfin, nous allons parler des méchants du cinéma ce midi sur RTL TV avec Samuel Leistet. Il publie un livre dans lequel il dresse les profils psychologiques des plus grands vilains du grand écran. Lui, il est grand, mais il n'est pas vilain du tout. Pas du tout. Il est très compétent même avec les auditeurs, c'est Benjamin Maréchal.
Il faudra un jour faire un livre sur les vilains de la télé,
oui,
alors.
Oui, il y en a. Hein.
Ah, j'ai deux, trois noms en tête.
Vous voulez quoi, les moches?
Non, pas les vilains, les méchants de la télé.
Ah, les méchants.
Mais on peut faire un tome 2 avec les moches.
Ah oui, c'est vrai, raison. Pourquoi pas.
On vient d'inventer une saga avec Thomas de Berguet et que j'aime bien. Allez, bonne journée Thomas.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Des bénéficiaires de colis alimentaires à Namur jettent la marchandise qui ne les intéresse pas dans la rue quelques mètres après les avoir reçus. Premier visage du jour, Yannick Defruy, responsable de l'association Une Main Tendue à Baumel, qui pousse un énorme coup de gueule dans la Meuse Namur. J'aimerais qu'on arrête de gaspiller les colis. Alors recevoir un colis et jeter ce dont on n'a plus besoin, pain, conserve, viande, fromage, est-ce que c'est compréhensible ou vous y voyez une forme de mépris ? Conversation que nous menons au 33-23. Allons à Beauvechain. Vinciane en ligne, bonjour.
Bonjour Monsieur Maréchal.
Parce que c'est un colis alimentaire, on doit dire que c'est parfait, que c'est bien et on doit dire amen, ou on peut critiquer un colis alimentaire?
Non, je ne pense pas qu'on doit... Enfin, on doit accepter le colis qu'on reçoit. Déjà, c'est une question de politesse. Maintenant, il y a toujours moyen, je pense, de redonner ce qui ne convient pas à d'autres personnes qu'on connaît.
Ah ben là, les gens, ils redonnent pas, ils jettent.
Ah ben oui, c'est scandaleux. Ça, c'est vraiment scandaleux parce que on sait très bien qu'en Belgique, même si on est un pays très développé, il y a des gens qui meurent de faim. Ça, c'est sûr. Il y a des gens dans la rue aussi qui meurent de faim.
Mais quel genre de gens peuvent avoir un colis alimentaire gratuit et jeter là de manière désinvolte dans la rue?
Mais des gens qui n'en ont pas besoin. Voilà. Et moi, j'en connais. Parce que, voilà, je travaille dans un magasin, j'ai des clientes qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout dans le besoin. Donc je le vois bien par les achats qu'elles font.
La piste des faux bénéficiaires.
Bien sûr, tout à fait. Et moi, je fais régulièrement des dons au Resto du Cœur, parce que j'ai moi-même une association et j'ai parfois du surplus. Et je donne au Resto du Cœur et j'ai déjà été plusieurs fois étonnée de voir certaines personnes à qui je ne m'attendais pas du tout à les voir là. et qui sont d'ailleurs fort embêtées de me voir parce qu'elles prennent des colis alors que voilà, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de colis.
Il y a une forme de flagrant délit, mais on se demandait tout à l'heure quel profil, on m'a dit égoïste, vous me dites faux bénéficiaire, on avance dans la compréhension du phénomène. La panne maintenant nous appelle au 3323, Véronique, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Benjamin.
Vous dites quoi à ces gens qui jettent la marchandise?
Ben écoutez, moi c'est honteux. Moi j'ai eu des colis dans le temps, j'en ai plus. Et j'ai vu des personnes qui jetaient de la nourriture et c'est scandaleux.
Vous voulez les sanctionner ou pas du tout?
Oui, parce que moi j'ai été pas sanctionnée, mais bon, retiré des colis, on avait de bons colis, on les payait pas, rien du tout. Et ici à la panne, on est bien servi. Et franchement, j'ai des mots, je suis un peu énervée là-dessus parce que vous avez des personnes qui ont des maisons, des appartements, qui reçoivent des colis. Et voilà, il y en a qui jettent. Je trouve ça triste.
Véronique, Véro, parce que j'ai noté Véro sur ma feuille, je sens effectivement au son de votre voix que ça ne passe pas. Et c'est ce qui est exactement ce qui est en train de se passer au 3323, avec beaucoup de commentaires courroucés, choqués. D'ailleurs, dans mon portable, il y a la gestionnaire de cette ASBL, une main tendue à Baumel. Jannick Defruy est en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre, on lit votre coup de gueule dans la Meuse Namur ce matin. Quand vous avez vu qu'on jetait, oserais-je vous demander si vous avez été... choqué, heurté, malmené?
Choqué, oui, bien entendu, puisque nos colis alimentaires sont préparés. Nous respectons la religion, donc les personnes qui ne mangent pas de porc, ben, on change toujours. On dit toujours aux personnes, ceux qui ne veulent pas, ils laissent dans le bac, pour faire profiter d'autres familles qui sont aussi dans le besoin.
Mais est-ce que j'ai bien compris, on jette à quelques mètres de votre porte? Donc c'est à votre nez, à votre barbe, ça?
On laisse dans les rues avoisinantes. On retrouve régulièrement de la marchandise sur les appuis de fenêtres, ou taper bêtement dans les poubelles au coin des rues, sur les trottoirs, partout.
Savez qui ou vous ne savez pas?
On ne sait pas.
Et si vous saviez, vous excluez ou vous n'excluez pas?
Alors, si on pouvait tomber sur la personne, je contacterais l'assistante sociale de cette personne et je demanderais une sanction, oui.
Et une sanction, est-ce que ça peut être une exclusion du système de colis alimentaire?
Pas spécialement, hein, parce que elle a peut-être besoin de ses colis alimentaires, mais que c'est des choses qui ne lui plaisent pas et qu'elle les prend quand même et qu'elle les laisse à l'abandon, mais l'exclure au moins un mois, deux mois, ou suivre la décision de l'assistante sociale, puisque l'assistante sociale connaît très bien le dossier de ses bénéficiaires.
Certains auditeurs ce matin ne comprennent pas qu'on puisse être égoïste quand on est soi-même dans le besoin. Donc gaspiller de la nourriture qu'on pourrait donner à des proches ou à d'autres gens, c'est de l'égoïsme. Comment peut-on être dans le besoin et être égoïste en même temps, Jannick Defruy?
Peut-être l'incompréhension de la langue, puisque nous avons on a des étrangers aussi qui viennent, qui ne parlent pas bien le français. Et peut-être ce point-là, ou des gens, qui n'en ont rien à foutre.
Ah oui, vous êtes
spécialement comme ça.
Vous êtes très clair sur le propos, là.
Je suis, oui.
Ok, donc c'est le quart d'heure. C'est le quart d'heure de la franchise totale. Tout à l'heure, Monica Courcelle nous a dit que dans son ASBL, on jetait avec intention. Vinciane m'a parlé de faux bénéficiaires et vous avez vous aussi des mots qui sont très clairs. Merci Jannick Defruy, on voulait vous entendre. Vous êtes la gestionnaire de cette ASBL, une main tendue à Baumel qui tire la sonnette d'alarme.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Allez, on tourne la page du journal maintenant avec le deuxième visage de l'actualité qui est au cœur de la maltraitance animale. Sophie Locatelli, du Rêve d'Abby, vient nous raconter ses plus grandes saisies animales, ses plus grandes interventions chez des propriétaires maltraitants. Mandatée par la région Wallonne pour agir, elle récupère les animaux. Tout ça dans un moment d'actualité puisqu'il y a 10 jours, 50 refuges wallons déposaient un préavis de grève pour dire leur émoi après que 2 chiens de la SPA de Mons aient été restitués à leur maître. La patronne du Rêve d'Abby est là ce matin. Sophie Locatelli, bonjour.
Bonjour Benjamin.
Alors vous étiez venu il y a quelques mois nous raconter comment vous aviez créé ce refuge, ce petit paradis où sont les animaux, mais vous êtes souvent mandaté par la région pour agir. Je voudrais d'abord comprendre le point d'actualité. Donc on a rendu 2 chiens maltraités au maître. C'est ça qui déclenche la colère de tout le monde?
Oui, c'est ça, mais on peut parler d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que c'est pas la première restitution cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que les refuges, quand on a des animaux qui sont saisis, quand on les récupère, on doit énormément les soigner, on doit aussi les remettre sur pied d'un niveau émotionnel. Et savoir que ces animaux pourraient éventuellement retourner chez leur propriétaire après une décision de justice, c'est totalement impensable.
Mais donc ça n'a pas de sens. Là, il y avait deux chiens, c'était des Spitz, ils sont extraits de leur milieu familial, mais on les remet dans le milieu familial. Mais qu'est-ce qui a changé chez le propriétaire maltraitant?
Alors rien, c'est une procédure de justice. Donc le problème, c'est que donc Bella et Balto, qui sont les deux petits Spitz qui ont été saisis et donnés à la SPA de la Louvière, étaient sous une saisie judiciaire.
Ouais.
Du coup, le temps que la justice fasse son travail et prenne des décisions, il est passé beaucoup de mois, je pense même une année, et la décision est tombée que ces deux chiens-là devaient retourner chez leur propriétaire.
Et donc là, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. Ils sont de nouveau dans leur cadre maltraitant sans qu'on ne sache, quoi.
C'est ça. A priori, il y a des contrôles pour voir que les choses se sont améliorées, mais ce n'est pas forcément certain, quoi.
Alors ça, c'est la goutte d'eau, effectivement, qui fait déborder le vase et qui suscite la colère de beaucoup de vos collègues dans le milieu animal. Et puis, il y a ce que vous faites au jour le jour. Vous êtes venu nous raconter ce matin ces plus grandes interventions, ces plus grandes saisies, qu'on comprenne ce que c'est la maltraitance animale. Alors, je secoue la boîte à questions et on va voir ce qu'elle veut d'abord savoir. De vous et de votre action.
Un jour, vous arrivez à Frameries et découvrez 250 lapins et quasi autant de cadavres. Chez qui êtes-vous et pouvez-vous décrire l'endroit ?
Oh bah ça démarre directement. 250 lapins ?
Oui, 250 lapins dans une cave.
Dans une cave ?
Oui, c'était vraiment une situation inédite. On arrive dans une petite maison à Frameries avec une personne totalement adorable, toute proprette, je vais dire, dans une maison classique.
Oui, donc c'est pas un château avec de l'espace, c'est une maison typique Borinage, Framerie-Borinage.
C'est ça, et puis rien ne pouvait dire de l'extérieur qu'une situation aussi catastrophique se passait dans la cave. Et puis là, on arrive chez cette personne, elle nous dit « oui, j'ai quelques animaux dans ma cave en bas ». Donc déjà, donc déjà nous, on est un petit peu choqués d'entendre le mot « cave » et « animaux ». Et quand on descend, c'était la vision d'Apocalypse en bas, quoi. Il y avait des centaines de lapins, donc je vous raconte même pas l'odeur, les mouches, cette atmosphère horrible. Il y avait plusieurs pièces, on voyait des lapins courir partout, d'autres étaient dans des petits enclos. On a retrouvé des nouveau-nés qui étaient occupés à se décomposer. Enfin, c'était vraiment affreux.
Mais qu'est-ce que cette dame faisait avec autant de lapins ?
Alors, je pense qu'elle s'est laissée dépasser. Enfin, j'imagine. Un petit élevage, mais qui a pris une ampleur. Parce qu'évidemment, les lapins, quand ça se reproduit bien. Et des animaux laissés les uns avec les autres, qui se reproduisent. Et pas de gestion, en fait, de ces animaux-là. Alors, ils recevaient de la nourriture, oui. Ouais. Mais c'est tout, en fait. Ouais. Et au milieu de tous ces lapins, on a retrouvé aussi un chien et deux chats qui étaient mis là en bas. Et la seule excuse de la dame, c'est « oui, oui, mais ils sont vieux, oui, oui, mais ils sont malades ». Et donc, ceux-là, ils étaient dans cette cave pour cette raison-là.
Ah, mais j'ai l'impression que c'est une vision d'horreur que vous racontez, en fait. Et ça, c'est pas un film. Ça s'est passé vraiment à Frameries, Belgique, région montoise, quoi.
C'est ça.
Ouais, et quand vous arrivez, vous dites à la dame « on va prendre les animaux », elle comprend quand même ou pas spécialement ?
Oui, oui, elle comprend parce que c'était un petit peu une demande de sa part aussi. Elle s'est rendue compte qu'elle était complètement dépassée par la situation. Sa famille avait compris ça et son assistante sociale aussi. Donc, la dame était totalement d'accord. Maintenant, c'est vrai qu'elle ne se rendait pas compte de la situation, enfin, de la gravité de la situation, quoi.
Ah non, c'est incroyable. Donc 250 lapins dans une cave, rien qu'en le disant, on se dit que c'est dingue. Je secoue la boîte à questions, s'il vous plaît. C'est pour Sophie Locatelli.
Au moment où tous les refuges ont déposé un préavis de grève, menaçant le gouvernement wallon de suspendre le travail, vous avez laissé un mois au ministre du Bien-être pour vous appeler. Est-ce qu'il vous a appelé ?
Est-ce qu'il vous a appelé ?
Pas encore.
Ok. Ah, il est que 9h18 et on est lundi en même temps. Il y a une chance qu'il appelle avant 10h ?
Bah, je pense qu'il y a une chance aujourd'hui non, mais je pense qu'il y a une chance qu'ils réfléchissent un petit peu à la situation et qu'ils trouvent des solutions. Maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent et qu'ils prennent un petit peu le travail des refuges à sa juste valeur, en fait, parce que le gouvernement a complètement délégué la gestion des animaux aux refuges, mais on a besoin d'aide, en fait, on a besoin d'aide des pouvoirs publics.
Ah ben là, c'est la grosse armada. Quand tous les refuges disent stop, on menace de faire grève, de plus aller chercher les animaux maltraités alors que les autorités demandent d'eux, c'est qu'on est effectivement avec la grosse artillerie. Alors, je voudrais vous poser quand même une petite question qui dérange après la pause. Sophie Locatelli, bougez pas, ce sera dérangeant.
Il mériterait d'être dans le journal avec Premium Automotive, Jean Blou. LRTL.
Proximus présente
L'internet le plus rapide, ça change tout. If you got
a problem. Oui, moi j'ai un problème, j'ai un meeting en anglais. And I don't want to stress for my connection.
Connectez-vous sans stress avec nos packs fibres. À partir de 54,99€ par mois pendant 6 mois. Conditions sur proximus.be. Proximus. Think possible.
Chez Vandenborg, c'est pour la vie. Et la vie, ça n'attend pas.
Patrick, l'anniversaire de Mathéo, c'est demain.
On le fêterait pas plutôt après le 1er juillet ?
Quoi ?
Chez Vandenborg, pas besoin d'attendre les soldes pour acheter votre cadeau. Car si vous le trouvez moins cher dans les 30 jours, on vous rembourse la différence. Vandenborg, c'est pour la vie. Plus d'infos sur vandenborg.be.
Vous vivez un enfer avec votre voisin ? Nuisances sonores, menaces, problèmes de mitoyenneté. Le quotidien est devenu invivable et vous ne savez plus quoi faire. Eh bien, l'émission de télé La Guerre des Voisins revient sur RTL TVI. J'attends vos témoignages pour vous aider via le mail laguerredesvoisins@rtl.be.
Il mériterait d'être dans le journal.
Sophie Locatelli du Rêve d'Abi vient nous raconter ses plus grandes saisies animales. Vous êtes prête pour une question qui dérange ?
Oui.
Allez, boum, vas-y. Est-ce qu'on peut dénoncer un voisin et vous venez avec les camionnettes et vous embarquez ?
Non.
Ok, c'est la question qui dérange. Maintenant, on peut faire les questions sympas, si tu veux bien. C'est la question de la vache. Allez, on... Vous avez un animal de compagnie, en vrai, dans votre maison ?
Oui, plein.
Vous avez quoi ?
J'ai des chiens.
Des chiens ? Ah, ok. Au Rêve d'Abi, combien d'animaux vous avez ?
Environ 200.
Ah oui, quand même, ouais. Le prénom le plus ridicule.
Il n'y a pas de prénom ridicule.
Elle me regarde avec des yeux fusillades. Non, mais je demande au cas où. Est-ce qu'on peut mettre une veste à un chien ?
On peut, oui, un manteau.
On peut mettre des manteaux ?
Oui.
Ah bah alors vous êtes cool. Hein, parce que je peux vous assurer que certains ici ont déjà dit pas d'accessoires et pas de vêtements pour les chiens. Ah bah je vais vous donner la liste de noms. Mais comme j'ai appris qu'on pouvait pas dénoncer, j'hésite quand même à vous la donner dans deux secondes. D'abord réfléchissons avec Big in Japan, c'est Alphaville qui est sur Bel Air Tel. Et puis vous nous replongez malheureusement dans des images qui sont quand même terribles à absorber, même si vous avez l'expérience de ces saisies et de ces interventions animalières aux quatre coins de la Belgique. moi, je vous le redis dans l'oreille pour un blind test. C'est Alphaville qui chante Big in Japan. Sophie Locatelli, notre invitée ce matin, on est en train de papoter. Remets-moi un orage parce que j'en reviens pas. La dame avec les 250 lapins, elle a toujours son permis de détention des animaux. En Wallonie, on a un permis. Hein. Elle a toujours son permis?
Oui, parce qu'elle n'a pas été condamnée. Donc on ne peut pas lui retirer son permis si elle n'a pas été condamnée.
Et qui vous a envoyé chez elle au départ? C'est la région Wallonne qui vous envoie?
Non, pas dans cette situation-là. C'était son assistante sociale qui nous a demandé de l'aide. Et on a accepté évidemment de porter secours à ces animaux. Quoi.
Ah ouais, non, les situations sont quand même parfois dingues. Mais donc elle a toujours le permis, donc elle pourrait... demain, racheter dans un élevage un chien, un chat ou autre chose, quoi.
C'est ça, oui.
Ah ouais, donc comme quoi intervention ne veut pas dire suppression totale. Fais-moi une boîte à questions, s'il te plaît, pour la responsable du rêve d'Abby.
Le 11 juin dernier, vous prenez en charge une ponette d'au moins 20 ans à Ham-sur-Sambre. La robe de l'animal est ravagée par les poux. Elle a une infestation de vers dans le ventre. Pourquoi ses propriétaires ne donnaient pas d'eau? C'est quand même le minimum, n'est-ce pas?
Ils donnaient pas d'eau? C'est le minimum, n'est-ce pas? Je répète comme une poule, mais c'est dingue, c'est le minimum.
On est toujours confronté à ce genre de situation où en fait on pense que oui, donner à manger, donner à boire, c'est le strict minimum. Mais en fait déjà ce minimum-là, il est rarement atteint dans les cas dans lesquels on va. Quoi.
Oh, mais quoi, c'est des gens qui ont vraiment une intention de faire mal à un animal et de l'assécher? Ou sont des gens qui perdent les repères? On a du mal à croire que les gens sont juste méchants et donnent pas d'eau, quoi.
Je pense que c'est juste des gens qui s'en fichent, en fait, et qui se rendent pas compte qu'un animal, ça doit boire tous les jours, ça doit manger tous les jours, ça doit avoir des soins régulièrement. Ils prennent juste pas leurs responsabilités par rapport à leur animal, en fait.
Donc là, ce sont des situations quand même qui durent depuis longtemps. Donc 11 juin dernier, vous intervenez, il y a des vers dans le ventre, des poux partout. Donc là, c'est pas une situation des 2-3 derniers jours. Vous arrivez, vous, à chiffrer... Vous n'êtes pas là pour enquêter, mais vous arriverez à chiffrer le temps de maltraitance?
Non, parce que ça dépend aussi d'un individu à l'autre. Et puis, on a des circonstances sur la prairie qui nous donnent des indices, en fait. Donc, par exemple, les bacs d'eau, si on voit qu'ils sont vraiment secs ou s'il reste une petite couche d'eau, on sait depuis quand, plus ou moins, la personne n'a pas donné d'eau, mais ça reste du cas par cas, en fait.
Donc, le 11 juin dernier, vous récupérez cette ponette qui a au moins 20 ans à Ham-sur-Sambre. Et qu'est-ce que vous en faites une fois que vous l'extrayez de son milieu naturel? Qu'est-ce que vous faites de ces animaux?
Alors, on les soigne déjà.
Ouais.
On en prend soin, bien sûr. On s'y attache aussi beaucoup. Et une fois qu'on reçoit la destination finale de la part du ministre, donc c'est là où le bât blesse parfois, on les propose à l'adoption, s'ils peuvent partir à l'adoption. Oui.
Ah ouais. Donc, ils arrivent dans un refuge, le vôtre ou d'autres, et puis ils peuvent repartir à l'adoption.
Bien sûr.
Mais des animaux qui ont été à ce point maltraités, ils sont encore adoptables?
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Ah, mais c'est des traumatismes, parce qu'il y a la notion physique, mais il y a la notion de traumatisme. Vous sentez, à quoi vous sentez qu'il y a traumatisme sur l'animal avec l'expérience?
C'est son comportement, en fait. C'est sa façon de réagir aux stimuli. C'est sa façon de réagir à l'humain, aux autres animaux, à des bruits spécifiques. En tout cas, pour ce qui est des chevaux et des animaux de ferme, c'est vraiment ça. Ou leur façon de réagir à leurs congénères, en fait. C'est là où on voit qu'il y a traumatisme ou pas.
Alors, j'avais prévenu tout à l'heure que les images ce matin étaient terribles. On marque une pause. Et puis, nous allons dans la région de Beaurain, province de Namur. Vous nous raconterez ce que vous avez appelé vous-même un charnier à ciel ouvert. À tout de suite.
Belle RTL.
Stockez vos appareils électriques cassés en espérant qu'ils se recyclent tout seuls.
Fais pas si.
Les apporter dans un point récupel.
Oui, fais ça.
Apportez vos appareils électriques cassés dans un point récupel au parc de recyclage ou au supermarché.
Récupel.
900 euros pour un toboggan fait maison. Des vacances, des vrais avec Sunweb. À partir de seulement 96 euros par jour, séjournez dans un hôtel all-inclusif en Turquie avec plus de 14 toboggans et de la glace tous les jours. Vol et séjour all-inclusif inclus. Réservez maintenant vos vacances last minute au soleil avec la garantie du prix le plus bas sur sunweb.be. It's a Sunweb holiday.
Quand on achète quelque chose en ligne, on choisit toujours ce qui a le plus d'étoiles. Mais pour ma voiture, je choisis toujours celle qui n'en a qu'une.
Une Mercedes-Benz ne reçoit pas son étoile par hasard. Elle la mérite. Car seuls les modèles qui répondent aux attentes les plus élevées garantissent la meilleure expérience de conduite. Bénéficiez dès maintenant d'avantages attrayants durant les Star Days chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz.
Nouveauté Belle RTL. Calvin Harris, Smoke the Pain Away.
ice bucket lights uninjured. Roll up and wait for you. Wide awake in a hotel room, thinking of what I could do. Too late, I've been up for days. I can't even see straight. No, I can't smoke the pain away.
Sophie Locatelli du Rêve d'Abby, elle intervient partout en Wallonie pour récupérer les animaux maltraités. Alors, nous sommes en janvier 2025 à Pondrom, donc c'est dans la région de Beaurain, province de Namur. Vous êtes mandatée pour aller récupérer 7 moutons laissés à l'abandon, ce que vous allez appeler un charnier à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous voyez ce jour-là?
Alors, il y avait un petit troupeau d'une vingtaine de moutons dans une prairie au milieu des... C'était même pas des bois, c'était des champs. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans cette prairie, en fait, on voyait soit des moutons morts, soit des bouts de moutons morts.
Ouf.
Et un petit peu plus loin, derrière la clôture, carrément un tas de moutons morts.
Un tas.
Oui. Donc les animaux mouraient sur place et la personne avait quand même la décence de les enlever de la prairie et de les mettre les uns sur les autres à l'extérieur de la prairie.
Il faut le dire vite, avec beaucoup d'ironie évidemment.
Oui.
Le profil de l'individu, c'est un éleveur, c'est un particulier, c'est un fou. C'est quoi le profil?
C'était un éleveur un petit peu, occasionnel, on va dire, qui s'était dit qu'il allait probablement faire un petit peu d'argent avec un petit troupeau de moutons. Mais finalement, il ne s'est pas rendu compte que des moutons, ça ne fait pas que manger de l'herbe, qu'il faut aussi leur donner à boire, leur donner à manger l'hiver, les tondre, les vermifuger, enfin, et tout un tas de choses.
Ah, donc là aussi, les moutons, ils ont pas bu, quoi. On les alimente pas en eau non plus.
Alors non, et ce qui était horrible, c'est quand on est arrivé avec les véhicules d'intervention, on est rentré dans la prairie et les animaux léchaient les véhicules pour avoir la condensation, tellement ils étaient assoiffés.
Ah oui, donc c'est qu'ils sont très très loin dans le truc.
Ouais.
Ça, ce sont des images auxquelles vous êtes habitués ou cette situation-là, elle est très anormale, extraordinaire?
Elle n'est pas anormale et extraordinaire parce qu'on est confronté à ce genre de choses assez régulièrement. Maintenant, s'habituer, on ne s'y habitue jamais, en fait. Enfin, moi, j'ai toujours le ventre qui se serre et le cœur qui se déchire quand je vois des situations comme ça, mais c'est pas exceptionnel, donc on les rencontre assez régulièrement.
Oui. Ah, c'est incroyable. Donc là, les animaux, vous les avez récupérés, enfin du moins ceux qui vivaient encore, et vous avez des nouvelles après? Vous savez ce que deviennent ces propriétaires maltraitants ou après ils tombent dans l'anonymat
Non, on n'a pas de nouvelles et finalement, en fait, on n'en veut pas trop non plus. On espère qu'ils ont pris la mesure de leurs actions et qu'ils ne recommencent pas. Surtout, c'est ça. Parce que souvent, nous, on est appelés chez des récidivistes, chez des multirécidivistes. Et là, on se dit quand même que les choses sont mal faites parce que si les personnes ne prennent pas conscience qu'ils ont fait du mal à des animaux et surtout qu'ils recommencent après, ça devient un petit peu compliqué pour nous, quoi.
Et donc, je reviens là-dessus deux secondes, mais donc les moutons avaient tellement soif qu'ils léchaient les gouttes d'eau sur les véhicules.
Oui.
C'est quand même incroyable. Janvier 2025, Pondrom en Belgique. Question intéressée. En matière d'argent, quand la région Wallonne vous envoie dans des trucs comme ça, ils vous payent pour aller ou vous faites ça bénévolement, vous autres, les refuges?
Alors, on est des entités privées qui se mettons à la disposition en fait des autorités et on fait ça sur fonds privés, en fait.
Ah oui?
Donc, on n'a pas de subsides.
Donc, vous êtes mandaté pour faire un truc, mais c'est sur vos fonds personnels?
C'est ça.
Ah bah dis donc, là, de nos jours, on n'est plus indemnisé comme on pourrait le souhaiter. Question de la boîte à questions, s'il vous plaît, c'est pour Sophie Locatelli du Rêve d'Abby.
Votre refuge s'appelle le Rêve d'Abby. C'est le nom de la vache qui habitait à côté de chez vous et que vous avez sauvée. C'est avec Abby que tout a commencé en l'an 2012. Est-ce que Abby vit toujours?
Oui, elle est en pleine forme. Elle a eu,
ouais.
Elle a eu 13 ans d'ailleurs le 12 juin, donc il n'y a pas longtemps.
13 ans le 12 juin?
Oui.
Vous avez fait quoi pour l'anniversaire?
Je lui ai amené une botte de carottes.
C'est normal. Et donc, c'est là que tout a commencé. Vous nous l'aviez raconté la fois dernière, mais donc vous déménagez à un moment à la campagne. Et en face de chez vous, il y a cette fameuse Abby. Pourquoi elle vous touche à ce moment-là? Rappelez-nous l'histoire.
Donc, Abby est née en fait sous mes yeux et elle avait un frère jumeau. Et dans le cas des vaches laitières, quand il y a des jumeaux de sexe opposé, il y a trop de risques pour la femelle d'être amenée à l'âge adulte parce qu'elle pourrait être stérile. Et donc, qui dit stérile veut dire pas de reproduction, donc pas de lait. Du coup, elle n'allait servir à rien. Et quand le fermier a dit, bon ben, les deux partent à l'abattoir, là j'ai eu mon petit cœur qui s'est serré et j'ai récupéré Abby chez moi, qui m'a fait me rendre compte de plein de choses qui se passaient pour les animaux dans les élevages en fait.
Question totalement de novice, mais une vache, ça peut vivre combien de temps?
Une vingtaine d'années, facilement.
Ah, une vingtaine d'années, donc Abby est là, et a priori, si tout va bien, Abby reste près de vous. Alors, vous êtes la bosse du rêve d'Abby, je regarde le calendrier, et on organise une garden party, apparemment. C'est quoi la garden party du rêve d'Abby?
Donc, ce dimanche, donc le 22 juin, on organise en fait une grande porte ouverte, mais sous le signe un petit peu de l'été, du jardin, des prairies. Donc, en fait, les personnes peuvent venir voir notre travail, bien sûr, voir nos animaux, mais aussi passer un chouette moment dans l'herbe, dans la piste. Il y aura du beach volley, il y aura plein d'autres activités pour permettre aux personnes de passer un chouette moment en compagnie des animaux.
Mais c'est un jour d'adoption? C'est fait pour que les gens voient les animaux et adoptent, ou c'est pas ça l'enjeu?
Non, pas du tout, parce que les adoptions chez nous sont assez réglementés, donc c'est quelque chose qui doit être extrêmement réfléchi. Ça peut pas être fait sur un coup de cœur, sur une après-midi de porte ouverte, et donc c'est pas du tout un moment où on accepterait les adoptions. Non.
Ok, donc c'est un moment où on peut faire du beach volley, alors entre les vaches et les moutons. Donc refaites-moi toute la ménagerie, il y a vaches, moutons chez vous, il y a poney, il y a chevaux,
il y a quoi d'autre? Chèvres, cochons, poules, coques. Ah, je dois en oublier. Ah,
chien, chat, il y a moins, à part vos chiens personnels. Allez, boîte à questions s'il vous plaît pour Sophie.
Au refuge, le rêve d'Abby, vous avez des cochons à l'adoption. On savait qu'on adoptait des chiens ou des chats, mais des parents qui adoptent des cochons, ça vous arrive souvent?
Vous avez souvent des adoptants de cochons?
Pas assez souvent, mais on en a quand même.
Bah, c'est très spécifique, il faut avoir quoi pour adopter des cochons?
Bah, souvent, c'est les petits cochons qu'on appelle cochons nains, mais qui sont pas si nains que ça, hein, parce qu'ils arrivent à 80 kilos sans problème. Et pour détenir ce genre d'animaux, bah, il faut déjà un terrain fait pour les cochons, parce que si on attend de garder un très beau jardin avec des cochons, ce sera pas possible. Un abri, bien évidemment. Les cochons ne savent pas transpirer, donc il faut leur faire une mare à boue, une petite piscine.
Ouais.
Et alors, beaucoup d'attention, de soins et d'amour.
Ah oui, les gens veulent des petits bébés, comme dans le film, le petit cochon tout rose, ouais. Mais donc, bébé peut faire 80 kilos quand même.
Ben, Babe, déjà, lui, il allait en faire 300 kilos. Sinon, les petits cochons vietnamiens, les cochons nains, comme George Clooney, on a eu un d'ailleurs. C'est des cochons qui font entre 60 et 80 kilos à l'âge adulte.
Ah oui, ben, au moins, vous voilà prévenu grâce à Bel-RTL. Oh, une petite question qui dérange au passage. Et si on vous proposait d'être ministre du bien-être animal en Wallonie?
Non, merci.
Attendez, je refais la question. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Ministre, ministre?
Non, merci.
Non, merci? Non. Je double le salaire? Non merci. Ah non, là elle dit pas non merci.
Non non, si elle dit non merci.
Ah, je triple le salaire?
Non merci.
3-4?
Oh, à la fois 10, on peut réfléchir.
Ah tu vois, je me disais bien qu'il y avait moyen de négocier un truc.
Je sais pas ce que la vie me réserve. Je voudrais que ça reste un mystère. Sinon ça va pas me plaire. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y voir clair. D'abord ça manque de lumière. Et puis d'un coup tout s'éclaire. Oh, je me prends.
Autour de moi.
en quatre lettres, c'est Rory sur Bel RTL avec la vérité. Sophie Locatelli, notre invitée ce matin, c'est elle qui réalise l'émission Impossible aux quatre coins de la Wallonie. Alors je le dis de manière drôle, mais dans un instant après la pause, vous nous racontez effectivement cette intervention assez étonnante à Écossine, on est en juin 2024, une étable avec des vaches agonisantes et vous êtes appelé pour intervenir. A tout de suite sur Bel RTL.
Bel RTL.
Bel RTL.
Moustique, l'hebdo qui pique, fait place à Moustique, l'esprit critique. Un nouveau slogan, parce que Moustique, aujourd'hui, c'est bien plus qu'un hebdo. Un tout nouveau site aussi, pour mieux vous raconter notre époque. Des infos qui vous parlent, un guide culture inspirant, les dernières tendances. Et pour 1€ seulement, profitez d'un accès numérique illimité. Moustique, l'esprit critique.
Ah, chère Madame Martin, vous trouverez en pièce jointe notre devis.
Pour votre gouttière, bien à vous, toiture le lièvre.
Des dessins animés avec les enfants à l'envoi de devis en un instant. En tant qu'indépendant, vous jonglez non-stop entre le privé et le professionnel. Passez d'un mode à l'autre sans interruption avec l'offre premium d'Orange. Grâce à My Comfort Service, avec 4G backup inclus, vous restez toujours connecté en toute sérénité. Rendez-vous sur orange.be/indépendant ou dans votre shop Orange. Orange est là.
L'astuce IKEA de la semaine. Ça sent enfin l'été. Pour fêter ça, profitez de moins 15% sur une large sélection d'articles d'été.
IKEA.
Pour les membres IKEA Family.
Info sur IKEA.be.
Il mériterait d'être dans le journal.
Qui ça ? Sophie Locatelli du Rêve d'Abby, notre invitée ce matin. Dans un moment de grande colère des différents refuges qui contestent l'attitude de la région Wallonne ou son manque de proactivité, il y a quelques semaines, deux chiens maltraités ont été rendus à leurs propriétaires maltraitants. Alors racontez-nous votre travail, nous sommes en juin 2024 à Écossine. Vous êtes appelé dans une étable où se trouvent des vaches. Jusque-là, on se dit que tout va bien. Mais quand vous entrez dans l'étable, qu'est-ce que vous voyez ?
Une situation d'horreur, encore une fois. Donc des vaches, certaines étaient mortes et déjà piétinées par les autres vaches, des veaux morts aussi. Deux vaches agonisantes, dont une qui respire à peine en fait. Donc on a dû attendre le vétérinaire pour venir l'euthanasier sur place parce qu'on savait rien faire pour elle. Et le reste du troupeau dans la boue, si on peut appeler ça de la boue, maigre au possible, complètement rempli de gale, de poux, enfin une situation...
En plus, les animaux se sont auto-mutilés entre eux. Alors, vous dites que les animaux se marchent parfois les uns sur les autres. Donc là, il n'y a plus aucun repère pour ces animaux-là. Ça devient la jungle.
Non, ils ne le font pas exprès. Mais quand il y a des cadavres dans des endroits où les animaux sont un peu enfin, où il y en a trop dans un petit espace, ouais. Bien évidemment, au bout d'un moment, ils vont marcher sur leur congénère mort, quoi. Ça.
Et là, on a affaire à des vaches adultes. Ce sont des vaches qui étaient destinées à quoi ? À l'abattoir ? C'était des vaches laitières ?
Non, c'était des vaches, comme on appelle des vaches viandeuses, je pense. Et qui étaient destinées, oui, à être élevées, à faire des jeunes et à être abattues après. Oui, c'était une exploitation, en fait, finalement.
Allez, donc là, vous découvrez une vingtaine de vaches. Vous en ramenez quand même. Et alors, il y a cette vache qui est enceinte, enfin, qui s'apprête à mettre bas le lendemain. Ce qui est plutôt une belle histoire ou une suite terrible de l'histoire ?
C'était très très triste parce que Apolline, donc comme on l'a appelée, était vraiment au bout du rouleau. Elle était vraiment extrêmement faible et on a découvert qu'elle était sur le point de mettre bas. Et donc, rien que le fait de pousser, c'était beaucoup trop dur pour elle. Donc notre vétérinaire est venu pour faire une césarienne en sachant que ça passe ou ça casse en fait dans ces moments-là parce que l'animal était beaucoup trop faible, elle était malade, enfin... Elle a utilisé vraiment ses dernières ressources pour essayer de mettre son veau au monde. Et donc, sa petite génisse est née. Et Apolline est morte la nuit suivante d'épuisement, en fait.
Ah ouais, mais le bébé est resté vivant, mais la maman pas. Quand vous devez transporter ces animaux, c'est pas anodin. Alors, donc ces animaux sont là à bout de force, mais vous devez les amener jusqu'au véhicule. Comment vous les amenez jusque-là ?
Ah ben, comme on peut. Tout dépend de chaque situation, en fait. Donc,
ça ici, se porte pas une vache.
Non. Mais ici, les vaches étaient encore debout. Donc voilà. Après, dans le cas d'animaux vraiment agonisants qui doivent être transportés, souvent ils sont extrêmement maigres. On est quand même beaucoup sur place. On arrive à trouver des systèmes pour essayer de les amener jusqu'au véhicule, mais on y arrive toujours.
Et ça, les fameux véhicules d'intervention dont vous parliez tout à l'heure. Secoue-moi la boîte à questions, s'il te plaît, pour Sophie Locatelli.
Lors du week-end de fête des mères, vous avez mis à l'honneur une maman. Elle s'appelle Xena, dite Xena la guerrière. Quand vous la découvrez, elle veille sur Victor et malgré sa grande faiblesse, elle donne naissance à Jack. Qui est Xena ?
La guerrière. Xena, la guerrière. Qui est Xena ? C'est quel animal ?
Une vache.
Une vache ?
Aussi, ouais.
Ok, ouais. Et vous l'appelez la guerrière, pourquoi ?
Parce que déjà, quand on a été la chercher, elle était vraiment dans un état lamentable et elle ne s'est pas du tout laissée faire. Donc c'est déjà une vache qu'on a, qui est partie de l'endroit de saisie en cassant les clôtures de la, enfin, du contrevenant pour s'enfuir. On a dû courir dans les champs derrière elle. Enfin, voilà. Quand on l'a ramenée au refuge, je pense qu'elle a blessé 2 bénévoles ou 3 bénévoles parce qu'elle était en furie alors qu'elle était, comme on appelle dans notre secteur, un porte-manteau. Donc, ça veut dire extrêmement maigre.
Ouais.
Et finalement, je pense quelques semaines plus tard, elle a quand même réussi à mettre bas d'un veau qu'on a prénommé Jake.
Ah, et vous arrivez à avoir un attachement à ces animaux-là? Alors vous, oui, mais est-ce que vous sentez que les animaux qui se retrouvent du coup chez vous arrivent à avoir un attachement à vos bénévoles, lâchent un peu prise et retrouvent le goût de la nature humaine à un moment, ou pas du tout? Ça reste des animaux très méfiants?
Non, complètement. Xena, par exemple, elle s'est extrêmement adoucie. Elle a une super complicité avec une de nos bénévoles, Stéphanie, qui s'en occupe beaucoup. Et les animaux apprennent aussi. Ils comprennent que tous les humains sont pas comme leurs anciens propriétaires. Et ils reconnaissent aussi les gens. Donc, par exemple, Abby, moi, quand je vais la voir, elle me reconnaît, elle vient vers moi. Quand c'est quelqu'un d'autre, elle s'en va un peu parce qu'elle sait qu'elle va recevoir un soin ou ce genre de choses-là. Donc, les animaux peuvent nous reconnaître, bien sûr.
Je prends un autre exemple. On est à Lavaux-Sainte-Anne en mai 2024. Vous devez intervenir pour récupérer 80 moutons qui sont là aussi en situation de maltraitance. Donc 80 moutons, ça se fait pas en 2 secondes. Vos interventions, elles durent combien de temps? C'est quoi la longueur de ce travail?
Ça dépend. Là, sur cette intervention-là, on a mis vraiment toute l'après-midi, voire toute la journée, parce que c'était une situation assez spécifique. Mais parfois, on sait toujours quand on part, on sait jamais quand on rentre. Et parfois, même quand il y a 3 animaux, ça peut nous prendre toute la journée. Et parfois, quand il y a un troupeau, ça va très vite, parce que la situation fait qu'ils montent facilement dans les véhicules.
Mais vous arrivez à 12 500 véhicules, ou vos moyens sont limités? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une armada géante qui débarque.
Déjà, on travaille en fédération avec plein d'autres refuges, donc chaque refuge a son véhicule, parfois plusieurs véhicules, et du coup, oui, on arrive, en fonction du nombre d'animaux, on arrive suffisamment sur le terrain pour pouvoir gérer les situations.
Ouais, 80 moutons, c'est énorme. Mets-moi un petit orage au passage, s'il te plaît. Chiffre lu et entendu sur RTL et sur RTL Info, 165 abandons par jour. Ce sont les derniers chiffres dont on dispose à propos des abandons, quelle que soit la race et quel que soit l'animal. 165 abandons par jour. Quand vous lisez ça, vous dites quoi, vous ?
Que les gens doivent arrêter de prendre des animaux si c'est pour les abandonner, parce qu'après, c'est les refuges qui doivent assumer et c'est plus possible.
Mais alors, pourquoi les gens font ça ?
Bonne question.
Ah oui, c'est plus facile de poser les questions que d'avoir les réponses. Mais donc, les 165, vous le sentez sur le terrain. Ça, c'est abstrait, c'est une stat, mais vous, sur le terrain, vous le sentez, quoi.
Nous, ce qu'on sent surtout, c'est qu'on est extrêmement sollicité pour prendre des animaux en charge dont les gens ne veulent plus, mais qu'on ne peut pas faire face à tous ces abandons. Et donc, ce qui est horrible pour nous, c'est de se dire, ben là, on refuse un cochon, une chèvre, un cheval. Qu'est-ce qui va se passer pour cet animal-là? Mais on ne peut pas tous les prendre. On est déjà à flux tendu tout le temps, on est complet. On ne peut pas prendre tous les animaux que les gens veulent abandonner, c'est pas possible.
Et là, vous en avez combien donc dans le refuge pour l'instant?
Environ 200, 250, oui.
Et vous pouvez encore grimper, ou là vous êtes au max?
On est au max, on est tout le temps au max en fait.
Ah oui, c'est ça, vous êtes tout le temps à flux tendu. Boîte à questions, s'il vous plaît, ce sont les dernières, pour Sophie Locatelli.
Au mois de mai, l'unité du bien-être animal vous envoie à Wasège pour prendre en charge 2 brebis et 2 agneaux. Les 2 brebis n'avaient plus été tondues depuis 2 ans. Quel est le problème d'une laine sans entretien?
C'est quoi le problème? Parce qu'on se dit, bon, plus tondu, c'est un mouton, c'est la nature.
Non. Déjà, les moutons qu'on voit, donc les moutons qu'on voit habituellement, les blancs, etc., c'est pas du tout la nature. Hein. C'est des races qui ont été sélectionnées par l'homme pour l'homme et qui n'ont plus du tout rien de naturel. Et donc, ils ne perdent pas leur laine tout seul. Il faut les tondre. Pourquoi? Parce que sinon, au-dessus de 20 degrés, un mouton peut souffrir d'hyperthermie et mourir de chaud, en fait, clairement. Ouais. Ensuite, cette laine qui s'accumule va aussi être un certain poids pour l'animal, parce que il va y avoir de la boue, il va y avoir des excréments. Les animaux peuvent pas se débarrasser justement des salissures. Les mouches viennent pondre et c'est là que les animaux se font dévorer vivants par les vers de mouches, comme on appelle les miases.
Et quand vous arrivez, vous faites les soins directement? Non. Ou vous devez d'abord ramener les animaux et puis vous passez à l'étape de soins?
C'est ça, on doit d'abord les ramener au refuge, on les laisse un petit peu se calmer, on leur donne à boire, à manger et puis après on attaque les soins.
Ah oui, et donc là, vous devez effectivement les remettre sur pied. Une fois qu'ils sont remis sur pied, vous mélangez tous les animaux. Il y a un petit côté périlésa, tout le monde est mélangé. Vous avez des enclos race par race.
On a des enclos par espèce, oui. Après, on essaye de mélanger aussi certaines espèces pour nos prairies, parce qu'il faut savoir que d'avoir du pâturage de différentes espèces, ça aide le sol à se régénérer et ça empêche les vers d'être de se régénérer aussi, en fait, finalement.
Ouais. Je vous fais une dernière question avant de vous laisser filer. Vous nous racontez ce matin l'horreur parfois du secteur.
Une question personnelle. De même que le croque-mort s'habitue à la mort et aux clients tristes, est-ce que vous vous habituez à la mort des animaux ?
Pour une dernière, c'est une dernière. On s'habitue à ça ? Enfin, y a une forme d'habitude, de philosophie ou pas ?
Alors, non, on s'y habitue pas. Enfin, moi, je suis triste pour chaque animal qui est euthanasié ou qui meurt. Après, on arrive un petit peu à se dire que pire que la mort, il y a la souffrance. Et donc, parfois, c'est mieux pour des animaux d'être endormis de manière respectueuse plutôt que d'agoniser pendant de longues semaines, de longs mois, par manque de soins, en fait.
Ouais. Donc, au moment d'une intervention, une euthanasie, c'est pas forcément un échec. Enfin, ça l'est, on se comprend, mais ça n'est pas forcément un échec.
Alors, c'est une délivrance pour l'animal. Après, ça reste un échec pour nous de se dire qu'on n'est pas arrivé suffisamment tôt que pour pouvoir sauver cet individu-là, en fait.
Donc je rappelle que le point de départ, c'est pour ça que vous êtes là ce matin pour nous raconter votre travail, c'est la colère des différents refuges, puisqu'on a remis il y a quelques jours deux chiens maltraités aux maltraitants. Vous demandez à la région Wallonne de prendre les choses au sérieux et d'agir. Donc quelle est la première demande que vous faites au ministre du Bien-être Animal ? La vraie première demande très concrète, c'est quoi ?
La vraie première demande, c'est de trouver une solution pour que des animaux qui ont été saisis pour maltraitance ne soient plus jamais rendus à leurs propriétaires.
Ça, c'est le message de fond. Merci d'être venue ce matin, Sophie Locatelli.
Avec plaisir.
Ah, j'aurais aimé que ça termine sur une note positive, mais c'est la réalité de votre secteur. Alors,
oui.
Vous avez été appelée ce week-end ou pas ?
Non.
Ah, au moins, le week-end était bon. Ça, c'est déjà ça. Merci d'être venue ce matin. Vous êtes la boss du refuge Le Rêve d'Abby. On marque une pause et dans un instant, alors là, l'histoire complètement belge. Le papa de l'aube qui n'a plus de bustec pour emmener ses enfants à Binge. Il y avait un bus à 7h28 et il a disparu. Personne ne comprend pourquoi le bus ne vient plus. Il y avait un bus, ben il n'y a plus de bustec. Qu'est-ce qui se passe au tech ?
Belle RTL.
Belle RTL.
Prenez la route en toute tranquillité grâce à l'entretien de votre voiture chez Quality Garage. Avec dépannage inclus. Quality Garage, votre concessionnaire multimarque.
Avec sa finition high-tech, faut vous demander...
Attends, c'est une Kia Sportage, ça ?
Stylée à l'extérieur, élégante à l'intérieur.
Ah, donc ça, c'est vraiment la Kia Sportage ?
Oui.
Bah non.
Et jusqu'à fin juin, vous bénéficiez d'un avantage de 6000 euros sur les modèles de stock.
6000 euros ?
C'est ça. Alors foncez chez votre concessionnaire Kia avant qu'il ne soit trop tard.
Kia, movement that inspires.
Découvrez aussi tous les autres Kia Summer Stock Deals, avec entre autres jusqu'à 5000 euros d'avantage sur la Kia Ceed. Conditions sur kia.be.
Gérer son argent, ça s'apprend.
Bel RTL et Waterloo Asset Management ont décidé de relever le défi de vous aider à mieux comprendre le monde de la finance pour mieux gérer votre argent.
Rendez-vous à 11h30 sur Bel RTL pour découvrir les bons conseils de notre expert.
Gérer son argent, ça s'apprend. Avec Waterloo Asset Management, spécialiste du conseil en investissement.
Besoin d'une réparation carrosserie ? Rendez-vous chez Quality Carrosserie. We want to make a shine.
Bel RTL.
Écoutez Bel RTL.
C'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tout le projet, des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise le possible en non. Et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter. L'occasion va passer, la passion
votre musique toute la journée sur Bel RTL.
Il mériterait d'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Troisième visage de l'actualité, c'est l'histoire belgo-belge de ce matin. Sébastien, c'est un papa de l'Aube qui espère que ses enfants seront emmenés en bus des techs à Binche à l'école. Sauf que là, à l'Aube, il y a un bus. Un bus à 7h28, c'est le seul, c'est l'unique, et le bus a disparu. Eh bien, appelons ce papa de l'Aube qui se demande où est le bus. Bonjour Sébastien.
Bonjour Benjamin.
Bon, d'abord le topo, je veux la fin de l'histoire évidemment, après ça a reçu le bus est revenu, mais le topo, quand je dis qu'il n'y a qu'un seul bus qui va jusqu'à Binche, l'Aube Binche à 7h28, c'est pas une expression, c'est celui de 7h28 ou c'est rien?
Oui, tout à fait. Déjà, je suis pas de l'Aube, je suis de Thouin, même si c'est à côté, mais c'est vrai que mes enfants prennent le bus de l'Aube vers Binche, et donc sur la ligne 21, il n'y a qu'un bus le matin qui part vers Binche et un bus l'après-midi qui revient vers l'Aube.
Quel âge ont vos enfants?
Elliot, 17, et Tess va sur ses 16 ans.
Donc, tout allait bien jusqu'au jour où ils attendent le bus, et le bus ne vient pas, et le lendemain, il ne revient pas, et il ne revient pas. Est-ce que les techs vous préviennent? Est-ce qu'il y a un petit mot écrit sur le poteau d'arrêt de bus? Est-ce que vous êtes prévenu?
Non, on n'est pas prévenu. Quand les contacts, puisque c'est pas la première fois, donc aussi long la semaine, c'est la première fois, mais ça arrive assez souvent, au moins une vingtaine de fois par an, que le bus ne vient pas. Et quand on les contacte, c'est soit la personne, le conducteur est malade ou un problème technique. Et ils nous renvoient à chaque fois vers l'application des techs, qui est une application, on va dire, de la préhistoire, puisque parfois, sur l'application, on voit un petit bus qui se déplace, mais qui n'est pas la réalité, parce que parfois le bus passe devant vous sur l'application, mais en réalité il ne passe pas. Et donc voilà, donc on en est là aujourd'hui, de savoir, c'est le matin, les parents, on attend, on dépose nos enfants, où ils y vont à pied, et puis on attend de voir
si oui, c'est l'aventure totale. Alors le bus a disparu, il s'avère au final que le bus n'est pas opéré réellement par les techs, mais par un sous-traitant, donc un sous-traitant qui fait ça pour les techs, qui est logoté tech, mais c'est un sous-traitant qui est à la manœuvre, et donc le sous-traitant a eu des problèmes de bus, et il n'a pas pu mettre un bus remplaçant.
Non, donc comme c'est une petite ligne, on va dire, puisqu'il y en a qu'une le matin et un retour le soir, et donc il y a une très mauvaise communication vers les utilisateurs, ce qui est quand même la priorité, et entre eux et avec le tech, puisque suite à mon coup de gueule, le tech a déclaré comme quoi ils avaient été mis au courant, mais que on devait faire des plaintes pour remonter le problème. Donc c'est à nous parents et aux utilisateurs enfants de se plaindre pour peut-être éventuellement trouver une solution. C'est aberrant.
Alors, j'ai attendu volontairement que tout le monde soit là. Alison est à côté de moi. Thomas de Bergueil qui est là. Sandrine Corman est là. Je vous attendais pour la fin du film. Le bus 21, l'Aube Binche, a disparu. On n'a pas pu trouver un bus remplaçant, ni mettre quelqu'un d'autre. Est-ce que ce matin, à 7h28, puisque c'est le seul moment où le bus passe, il n'y a pas avant, il n'y a pas après, il n'y a plus. Juste 7h28. Est-ce que ce matin, à 7h28, le bus était là?
Le bus était là ce matin.
Oh, mais on l'a retrouvé.
Il a été réparé. C'est un ennui technique. Mais sera-t-il là demain et les autres jours? Ça, j'attends votre appel demain.
Gardez un peu de suspense pour demain. Oui, c'est vrai. Ça nous arrange bien, nous.
Ceci étant dit, je me dis que ce serait pas mal dans la matinale de tous les jours appeler à 7h29. C'est possible pour vous, pas Thomas?
On peut tenter le coup, ça peut être sympa.
Ça serait quand même pas mal. Et donc, les enfants ont pris le bus ce matin quand même, alors, du coup?
Ouais, les enfants ont pris le bus ce matin, quoi. Mais on avait trouvé une alternative avec une maman pour pouvoir faire le covoiturage. Donc on avait une solution. Mais l'application disait juste, il y avait le petit logo qui se déplaçait, le bus est réellement passé, les enfants l'ont bien pris.
C'est quand même une belle fin de film hollywoodienne. Le bus 21 avait disparu, on l'a retrouvé. Merci Sébastien, et vous nous donnez des nouvelles si ça rebug, d'accord?